Bonjour à tous. Que veut la France en Libye? La stabilité et la lutte contre le terrorisme. Mais le ministre des Affaires étrangères se montre très conciliant avec le maréchal Haftar qui veut pourtant renverser le gouvernement libyen. Dans ce journal, reportage à Tripoli, la capitale assiégée par les troupes d'Haftar. Omar Waman est notre envoyé spécial sur place. Pas de pitié pour Christophe Castaner. L'opposition se déchaîne contre le ministre de l'Intérieur accusé de propager des fausses nouvelles. Avant-hier, il parlait d'une attaque contre l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, mais les faits semblent tout autres. Explication à suivre. Un adjoint au maire de Marseille, jugé hier pour avoir loué un logement indigne pendant des mois, plus de 500 euros par mois pour quelques mètres carrés moisis. Et cela, 6 mois tout juste après l'effondrement de 2 immeubles dans le quartier de Noailles. À suivre, qui est le groupe British Steel qui va reprendre l'acierie à Ascoval? Ses propriétaires sont des Français. Le gouvernement débloque 33 millions d'euros pour insonoriser les lignes de TGV entre Paris-Rennes et Paris-Bordeaux et ainsi améliorer la vie des riverains. 8h20, le grand invité de France Inter, Nicolas, vous recevez Régis Debray.
Et il vient nous parler de celui qu'il appelle un faux vieux monsieur, un importun très opportun, un illustre inconnu du nom de Paul Valéry. Régis Debray au micro d'Inter. Dans 20 minutes, on va parler philosophie, Europe, littérature, poésie, actualité aussi. Vous avez la main, vous avez la parole, 01 45 24 7000.
Et si la Comédie Française recrutait en Seine-Saint-Denis, dans un quart d'heure reportage dans une classe préparatoire au conservatoire à Bobigny, c'est vraiment le théâtre pour tous.
France Inter.
Le maréchal Haftar fait partie de la solution. Ce matin, dans le Figaro, Jean-Yves Le Drian confirme la très grande bienveillance de la France envers l'homme fort de l'Est de la Libye, parti il y a un mois à l'assaut de Tripoli et du gouvernement légal. Lundi, à ce micro sur France Inter, le représentant de l'ONU en Libye, Ghassem Salamé, mettait en garde contre la tentation de l'homme fort. Mais dans son interview, le ministre français des Affaires étrangères prête de nombreuses qualités au maréchal Haftar. À Tripoli, l'armée régulière tient bon face à ces assauts. Et hier, plusieurs dizaines de députés ont boycotté les travaux du Parlement à Benghazi, la ville d'Haftar. Ils se sont rendus à Tripoli, la capitale où se trouve notre envoyé spécial, Omar Waman.
C'est l'hymne national de la Libye, entonné par une fanfare militaire qui a ouvert cette session parlementaire dans la capitale, convoitée par le général Khalifa Haftar, dont les troupes s'enlisent aux portes de la ville. Le député Ayman Seinfenasser. Il ne s'attendait pas à une telle résistance. Il a été lui-même surpris. C'est quelqu'un qui veut tout pour lui. C'est quelqu'un qui n'a aucune limite. Il est prêt à aller encore plus loin. S'il parvient à prendre le pouvoir, le pays sera totalement détruit. Une analyse que partage Aïcha Salabi, députée de la ville de Zawiya. Si cette guerre continue, elle va tout dévaster. C'est la haine et la division qui vont prospérer. Dans les rues de Tripoli, la peur est palpable, mais de nombreux habitants refusent de choisir entre le général Haftar et les milices qui contrôlent la capitale. Choukri, un ancien guide touristique. Haftar ou les milices, c'est la même chose pour moi. Haftar, s'il gagne, il deviendra un nouveau dictateur comme Kadhafi. Si les milices l'emportent, elles seront encore plus fortes et continueront de voler notre argent. C'est le choix entre deux diables. Dans les deux cas, je suis perdant. Usés par un chaos sans fin, les habitants s'attendent désormais au pire. Tripoli, Omar Waman, France Inter.
Juan Guaido appelle à manifester en paix demain au Venezuela devant les casernes pour que l'armée cesse de soutenir Nicolas Maduro. En 48 heures, la répression des manifestants anti-gouvernementaux a fait 4 morts et 200 blessés. 205 personnes ont été arrêtées selon Amnesty International.
Il est 8h04 et cette question ce matin, le gouvernement s'est-il trompé, Frédéric, sur les incidents à la Pitié-Salpêtrière?
En fin d'après-midi, le 1er mai, plusieurs personnes ont tenté de s'introduire dans cet hôpital parisien. Quelques heures après, le directeur des hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, avaient parlé d'une attaque. Mais les témoignages recueillis hier et certaines vidéos diffusées sur les réseaux sociaux donnent une autre vision des événements. Il s'agirait plutôt d'un mouvement de foule, d'un mouvement de panique en marge des manifestations du 1er mai. D'ailleurs, hier soir, les 32 personnes mises en garde à vue sont toutes sorties. Maître Lucie Simon est l'avocate de plusieurs d'entre elles.
On sent bien qu'il y a une enquête qui se dégonfle, que M. Castaner, dans ses mots d'attaque, d'intrusion, de violence, est allé beaucoup trop vite, encore une fois. Moi, ce que j'ai vu lorsque je suis allée m'entretenir avec mes clients au dépôt, c'est des personnes extrêmement choquées. Elles ont été nassées, chargées à plusieurs reprises, gazées, acculées finalement dans l'allée de l'hôpital, donc forcées, et qui ensuite ont été toutes interpellées. En fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils venaient chercher un refuge, sauf qu'on n'a pas vraiment voulu les entendre.
Des propos recueillis par Laurélie Carive. Ce matin, plusieurs journaux critiquent les propos de Christophe Castaner. La fake news venait de l'intérieur, titre Libération. Si la loi anti-fake news qu'il appelle de ses voeux avait cours, il serait déjà à Fleury-Mérogis, se moque l'éditorialiste de l'Union à Reims. Cet événement n'est pas aussi dramatique que pouvaient le penser les autorités à chaud, constate le Républicain Lorrain. Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
Ce matin, côté politique aussi, les oppositions ciblent Christophe Castaner.
Ah, et c'est du pain béni. Gauche, droite, confondu, tout le monde tombe à bras raccourcis sur le ministre de l'Intérieur, accusé de mensonges, de mettre de l'huile sur le feu, de monter en épingle une histoire. Place Beauvau, hier soir, on maintenait cette position quelque peu édulcoré, c'est vrai. L'enceinte de l'hôpital a été forcée. Des individus ont tenté de s'introduire dans un service de réanimation. C'est un incident très grave. Ces faits sont inadmissibles. On parle d'incident désormais. L'entourage du ministre revient également sur les faits. À l'origine, Christophe Castaner se rendait à la Pitié pour voir un policier blessé qui s'était pris un pavé. Une violente intrusion est évoquée à ce moment par la directrice de l'établissement et Martin Hirsch. Il n'a fait que réagir, poursuit son conseiller, à ce qu'on lui avait décrit, avant de regretter qu'aujourd'hui les mêmes se planquent. Mais comme souvent, effectivement, le ministre a voulu communiquer illico, systématiquement il s'exprime trop rapidement. Comment énerver un pilier de la majorité? Ça s'était plutôt bien passé ce 1er mai, mais ils arrivent à se prendre les pieds dans le tapis. Il se désespère de son côté, un proche du président.
Et le problème pour Christophe Castaner, Cyril, c'est que les polémiques n'ont quasiment pas cessé depuis son arrivée place Beauvau.
Et depuis sa prise de poste en octobre, ça n'est pas un long fleuve tranquille. C'est le moins que l'on puisse dire. Christophe Castaner doit gérer chaque samedi les gilets jaunes avec parfois des scènes chaotiques. Mi-mars, les violences sur les Champs-Élysées. Il y a aussi des dérapages personnels. La sortie en boîte de nuit qui va coller à la peau un certain temps au premier flic de France. Ses détracteurs, il en a quelques-uns. À chaque polémique, le claironne. Il ne peut plus rester. Je cite, il est cramé. Sourire du côté de Beauvau. Si on devait démissionner à chaque fois qu'on nous le demande de le faire.
Cyril Graziani du service politique de France Inter. Que s'est-il passé à la Pitié-Salpêtrière? C'est un dossier multimédia sur franceinter.fr. Dans ce contexte, plusieurs syndicats de journalistes demandent à rencontrer le Premier ministre et le Président de la République. En cette journée mondiale de la liberté de la presse, le Syndicat national des journalistes, la CGT et la CFDT dénoncent les entraves au travail des reporters, voire les violences policières contre eux sur les manifestations de gilets jaunes. Facebook s'attaque à plusieurs figures haineuses et complotistes. Le réseau a supprimé des comptes relayant les propos souvent antisémites de Louis Farrakhan, de Nation of Islam, ou bien d'Alex Jones, qui a fondé le site d'extrême droite dit de réinformation Infowars. Facebook tente toujours de tirer les leçons de l'attentat islamophobe de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Le tueur s'était filmé en direct pendant 17 minutes. Il y a 6 mois, 2 immeubles s'effondraient dans le centre de Marseille. Des bâtiments insalubre rue d'Aubagne, 8 corps sans vie retrouvés dans les ruines. Depuis, des centaines d'immeubles abîmés ont été évacués en urgence. 700 personnes dorment toujours à l'hôtel. Voilà qui met en lumière la pauvreté persistante à Marseille, l'insalubrité. Beaucoup de critiques aussi contre la municipalité qui ne ferait pas le nécessaire. Et tenez, hier, l'adjoint au maire de Marseille chargé du patrimoine passait au tribunal. André Malray, 87 ans, était jugé pour avoir transformé un local à vélo en mini-studio. Il le louait 520 euros par mois à une jeune femme de 23 ans, Isabelle Dor.
Rongé par l'humidité, les moisissures et les champignons, le studio était devenu invivable. L'élu a même été mis en demeure par le service d'hygiène de sa propre mairie d'assainir ce local. Il a quand même tenté de récupérer les loyers impayés avant de renoncer, car sa locataire l'a à son tour assigné en justice en demandant le remboursement des loyers déjà acquittés pour ce logement insalubre. Pascal Barton-Smith, l'avocate de l'adjoint au maire.
Mon client n'a rien à se reprocher, si ce n'est qu'il est bien désolé que Ce logement est connu un problème d'humidité et d'infiltration. Son but, c'est vraiment pas de louer un logement insalubre. Je dénonce un très mauvais procès qui n'a que pour but de se faire dédommager de manière disproportionnée par rapport au préjudice subi.
Une accusation qui fait bondir Jennifer, l'ancienne locataire.
Je réagis très très mal parce qu'on est en train de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Profiteuse qui est là que pour l'argent. Je ne suis pas une profiteuse, pas du tout. Je ne lui demande pas des sommes astronomiques. Je lui demande le recouvrement des loyers pour un appartement qui n'en est pas un. C'est devenu insalubre parce que c'était un local à vélo, donc il n'y avait pas de système d'aération. Et quand la moisissure a commencé à arriver, c'est moi qui me suis fait avoir clairement. Et puis c'est un élu. Il devrait être exemplaire. Bah non, il n'est pas exemplaire, pas du tout.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 juin. Marseille, Isabelle Dor, France Inter.
Quelle niche fiscale des entreprises faut-il supprimer pour baisser les impôts des particuliers? Bruno Le Maire recevait hier le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Interview du ministre de l'économie ce matin dans Les Échos. On sait déjà que certaines niches seront maintenues. Pas question de toucher à la TVA réduite dans la restauration ni au crédit d'impôt recherche. Le CICE sera bien converti en baisse pérenne des cotisations. La baisse des impôts de 5 milliards devrait concerner 15 millions de foyers. Bruno Le Maire à Saint-Saulve dans le Nord hier à l'usine d'Ascoval avec les élus locaux comme Xavier Bertrand. Il s'est réjoui de la reprise annoncée de l'aciérie. Les 270 salariés peuvent souffler de soulagement. Le tribunal de commerce a désigné British Steel comme repreneur. Le sidérurgiste britannique était le grand favori et il en profite, Antoine Gignot, pour se développer en Europe.
Comme son nom ne l'indique pas, British Steel est contrôlé par des Français. Deux frères, Marc et Nathaniel Meyoas, associés à un de leurs amis et qui ont racheté la société pour 1 euro symbolique en 2016 à travers un fonds d'investissement. Le groupe contrôle déjà les magasins Morrisons, la compagnie aérienne Monarch, une partie des aciéries britanniques et, en France, le site sidérurgique d'Hayange. En rachetant Ascoval, British Steel renforce donc sa production d'acier mais profite aussi de l'occasion pour faire diminuer son bilan carbone. Car la société qui fournit l'essentiel des rails de chemin de fer français et britannique emploie 4200 personnes au Royaume-Uni, mais elle utilise des hauts fourneaux qui polluent. Habituellement, elle achète des crédits d'émissions de dioxyde de carbone, mais elle n'a pas pu le faire cette année à cause du Brexit. La Commission européenne a suspendu le système d'échange de quotas. Conséquence, juste avant de racheter Ascoval, British Steel a été obligé de demander en urgence un prêt de 150 millions d'euros au gouvernement britannique. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Ascoval, retour sur 4 ans d'angoisse pour les salariés. C'est un dossier sur franceinter.fr. Médiatique, clivant, mais absent, le député marcheur du Val-d'Oise Aurélien Taché a vu son indemnité parlementaire diminuer de 25% le mois dernier. Et cela à cause de 4 absences injustifiées en commission des affaires sociales. Écologique, pratique, rapide, mais bruyant, le TGV ne fait pas que des heureux. C'est le cas sur les nouvelles lignes Tours-Bordeaux et Paris. Nouvelle ligne rapide. Des collectifs d'habitants qui vivent très près des voies se plaignent du bruit, des trains à 300 km/h. Hier, la ministre des Transports a donc promis 33 millions d'euros de travaux. Elle annonce aussi une nouvelle réglementation, Sandy Dauphin.
Un Paris-Bordeaux en 2 heures, un Paris-Rennes en 1h30. Depuis la mise en service de ces deux nouvelles LGV, certains riverains vivent un cauchemar, excédé par le bruit, le souffle, les vibrations des TGV lancés à plus de 300 km/h. La ministre des Transports reconnaît la gêne. Des travaux d'insonorisation vont être menés, soit chez les particuliers concernés, soit le long des deux voies LGV, prolongement des murs anti-bruit, aménagement des talus. Elisabeth Borne promet aussi de revoir la réglementation en vigueur car elle s'est révélée inefficace, comme l'explique François Corollaire du collectif Sartois des riverains de la LGV Paris-Rennes.
C'est calculé sur une moyenne, c'est-à-dire qu'entre 6h et 22h, la moyenne du bruit doit être de 65 décibels. Sauf que nous, on a pendant 100 trains qui passent avec des pics qui vont de 85 à 95 décibels. Ce qui nous gêne, c'est surtout les pics.
Aussi décriée soit-elle, cette réglementation a été globalement respectée. Le ministère des Transports ne peut donc pas se tourner vers les maîtres d'ouvrage, Eiffage, Vinci, pour financer les travaux d'insonorisation supplémentaires. L'État et les 3 régions, Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, partageront moitié-moitié la facture.
La croisière ne s'amuse plus. Un paquebot a été placé en quarantaine dans les Caraïbes au large de Sainte-Lucie à cause d'un cas de rougeole à bord. Et comme le luxueux bateau appartient à l'église de la Scientologie, il n'est pas sûr que les autres passagers soient vaccinés. Le médecin de bord a donc commandé des vaccins aux autorités locales.
Il est 8h14, on connaissait les prépas pour entrer à Sciences Po, Frédéric, ou en école de commerce. Voici les prépas au conservatoire.
À Bobigny, la maison de la culture de Seine-Saint-Denis Saint-Denis a ouvert une classe prépa aux plus grandes écoles de théâtre. Elle existe depuis 4 ans. Une quinzaine d'élèves sont recrutés chaque année, dont la moitié de boursiers. Reportage d'Agera Mohamed.
Yasmine, 25 ans, comédienne.
Antoine, 23 ans, comédien.
Et quand on les entend répéter, c'est vrai, on n'a pas l'impression d'être devant des apprentis.
Si tu voyais ce qui se passe ici, tu serais heureux, heureux, heureux.
Tu ne crois pas qu'une fois ça ira ?
Hein ?
Il sera heureux une bonne fois pour toutes. Une ou 20 fois être heureux, c'est être heureux.
Le tout sous le regard bienveillant d'Alcide Le Breton, le coordinateur de la prépa, qui a tout de même une petite remarque pour Antoine.
Mec, il avait mis un S à 100 et qu'il a fait une liaison mal à propos, donc je le rectifie.
Parce que ça ne passera pas au concours du Conservatoire National de Théâtre à Paris, les deux jeunes le tentent cette année. 1600 candidats pour 30 places, ça va être dur, oui, mais avec cette prépa, c'est possible, selon Antoine.
On a plein de salles où justement on peut bosser entre nous, on a une bibliothèque juste là-haut où il y a des bouquins, où on peut lire.
Sans oublier les cours donnés par de grands metteurs en scène, et tout est gratuit ici. Pour Yasmine, fille d'ouvrier, c'est un luxe, tout comme la diversité des profils chez les jeunes.
La diversité, c'est effectivement des gens qui viennent de tout horizon, parce que c'est pas l'entre-soi qui fait avancer, et puis clairement, oui, il y a un problème de représentation sur les plateaux et au cinéma. Oui.
Depuis le lancement de cette prépa, une quinzaine d'élèves ont intégré un conservatoire ou une école nationale de théâtre.
Donc, heureux, heureux, heureux. La suite ?
Heureux, ces jeunes qui apprennent le théâtre à l'école préparatoire au conservatoire de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. C'était un reportage d'Agera Mohamed, notre consoeur de France Bleu.
Merci Frédéric Mettezo.